Pour le quatrième numéro du podcast, où le concept est finalement interviewer des humoristes, j'ai choisi d'interviewer quelqu'un qui n'est pas humoriste. Donc, ça peut sembler un peu étrange comme concept, mais vous allez savoir pourquoi j'ai voulu le faire. Il est dans mon appartement en ce moment. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Serge Kosmatz.
Bonjour à tous et bonjour Dan. Et puis, il n'y a pas de quoi pour l'invitation.
Et tu confirmes que tu n'es pas humoriste?
Non, vraiment pas.
Mais pourtant, on va parler d'humour. Je vais t'expliquer comment et pourquoi. Pour chaque invité, je leur demande ce qu'ils veulent boire. Toi, tu vis surtout la nuit et c'est, oh, quelle surprise, tu m'as demandé d'acheter du
Red Bull.
Est-ce que tu crois qu'il n'y a que toi qui, après avoir passé 40 ans, continue de boire du Red Bull?
Non, je connais énormément de personnes qui le font.
Quoi. Sans la vodka, je parle.
Sans la vodka. Parce qu'après 40 ans, tu bois de la vodka Red Bull, tu risques l'infarct. C'est bon, quoi.
Donc Serge, t'as quel âge?
Je vais avoir 43 vendredi.
Ok, bonne année.
Merci.
Et quand je t'ai demandé où tu voulais faire ça, j'ai dit on peut aller chez toi si tu veux. J'aime bien, moi, me déplacer chez les gens parce que t'es un peu plus à l'aise quand t'es dans ton environnement. Et tu m'as répondu je voudrais bien, mais avec les colocs, ça risque de faire un peu auberge espagnole.
C'est toi qui interprétais comme ça.
C'était ma réponse,
moi,
en train de m'autociter.
Il y a quand même beaucoup de passages, il y a des travaux actuellement dans les appartements du haut, enfin du bas surtout. Donc pour un enregistrement, ça allait faire énormément de bruit. Et on n'allait pas être très à l'aise, c'est surtout ça.
Qui a encore des colocs après avoir passé un certain...
Ça, il faut avoir connu la faillite.
Mais c'est ça. Mais blague à part, c'est pour ça que, en général, tu n'as pas des colocs. C'est par choix ou c'est par obligation?
Au début, c'était par obligation parce que vraiment, mes activités professionnelles ont pris un solide coup dans l'aile et j'ai plus d'argent. Et puis, j'ai quitté la personne avec qui j'habitais à l'époque. Et la seule possibilité de trouver quelque chose où habiter rapidement, c'était vraiment prendre une colocation avec des amis qui sont un peu plus jeunes.
Mais t'avais quel âge à l'époque?
40, 41, quelque chose.
Non. Et comment qu'on se sent quand on se dit... Est-ce que t'as l'impression de reculer en arrière? Au contraire, tu te dis, pouf, cool, je vais vivre des nouvelles expériences.
Dans un premier temps, on a envie d'aller se pendre. Mais après, vu que ça se passe bien, c'est une expérience. Et puis les mois s'accumulent, les semaines s'accumulent et on a de nouveau 18 ans, quoi.
Ouais, j'imagine. Mais le plus, c'est que c'est ça. Il y en a beaucoup qui fantasment quand ils sont en couple depuis un bout de temps. Ah, si je pouvais retrouver l'esprit universitaire. Finalement, toi, tu l'as pas du tout demandé.
Non, mais moi,
ça t'est tombé dessus.
Universitaire déjà, donc j'en sais rien à l'esprit universitaire, mais...
Donc, juste pour résumer, parce que oui, on commence à parler, mais on va revenir à la base. T'es surtout connu pour tes activités de journaliste sur Internet. En ce moment, là, faisons un peu de promo, t'as un recueil parce que tu fais des chroniques sur ce qui se passe la nuit.
Focus Vif, une rubrique qui s'appelle Sortie de route, oui, ça c'est chaque semaine au Focus Vif, et là, il y a On lit édition, donc qui ont sorti une sorte de best-of numérique.
Ok.
Donc c'est un petit bouquin de 60 pages qui se lit sur les liseuses, sur les ordinateurs.
Que j'ai acheté, que j'ai lu, pas parce que je faisais mon professionnel, mais parce que j'ai su après qu'on allait faire le podcast, mais parce que ça m'intéressait. Et t'essaies, en plus, c'est un truc particulier parce que t'essaies de vendre des chroniques qu'on peut retrouver gratuitement sur Internet.
Oui, c'est un business model, encore une fois, assez adolescent, quoi.
et t'as confiance que ça marche ou...
Je m'en fous un peu que ça marche ou pas, c'est un peu... Je suis content que ça existe, je suis content aussi que ça passe un peu comme ça. Ça s'est imposé, j'y pensais pas au départ, mais que ça fait un peu saison. Donc là, c'est un peu le coffret de la saison 1 après la diffusion sur le web chez Focus. Et puis, on verra ce qui se passe.
Parce que c'est vrai, on trouve ça con pour des livres, mais d'un autre côté, t'as des séries télé où tu peux regarder gratuitement toutes les semaines en télé. Puis après, tu peux acheter le coffret et payer de l'argent pour avoir le coffret. Donc, il n'y a pas de raison qu'en littérature, ce soit plus débile
Bien sûr, et puis les disques que tu donnes l'autre, tu finis quand même par les acheter.
ça, c'est pas faux. Et donc, journaliste, et t'es surtout connu, en tout cas, moi, c'est comme ça que je te connaissais. On s'est rencontrés une première fois, il y a peut-être quoi, 6-8 mois, un truc comme ça. Et j'avais que entendu ta réputation sur Internet, qui était en gros un des plus gros connus sur Internet. Quelqu'un qui était
cogneur ou connard?
Moi, j'ai dit cogneur. J'ai déjà entendu
en fait,
connard.
C'est connard.
et je m'attendais à voir débarquer quelqu'un, mais hyper désagréable. Mais pas désagréable, mais super froid, qui soit toujours un peu dans l'analyse reculée et qui, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, envoie des pics parce que...
Mais les gens avec qui on avait rendez-vous avaient sorti pire. Ils s'attendaient même à voir quelqu'un se radiner complètement dégueulasse avec des tatouages. Une tête de biker et qui pue l'alcool à 10 km, quoi. Je suis arrivé tout propre et sur moi, ils ont été très étonnés.
Tu rigoles beaucoup, mais on entend déjà depuis le début.
J'ai renversé du café sur ta jambe, je crois aussi. Donc.
Oui, lors du premier rendez-vous, ce qui est toujours un bon moment pour une bonne occasion de se rapprocher. Mais ce qui m'a étonné, c'est qu'en général, pour Bon, j'ai fait moi, de la radio pendant 7-8 ans et forcément tu fâches, tu fais de la chronique humoristique, donc de temps en temps tu fâches des gens. C'est hyper, c'était pas le but non plus, mais c'est assez désagréable d'être dans le conflit à ce moment-là. Et tu, bon, t'apprends à gérer certaines choses et t'apprends à te faire la couenne dure, comme on dit. Mm-hmm. Mais moi en général, je sais que ça va arriver quelques fois par année, mais j'essaie d'éviter un maximum. Et je me dis, ceux qui sont capables de vivre ça au quotidien, donc d'être toujours dans le... Tu sais que tu dis quelque chose et que tu vas recevoir des baffes. Des fois, recevoir des baffes, c'est une chose, mais savoir que tu vas recevoir des baffes, c'est encore pire. Je m'attendais à ce que ce soit quelqu'un, justement, qui a la couenne très dure. Et je te vois arriver tout léger, tout rigolard. Et je dis,
mais je suis malgré tout assez blindé. Ça, c'est pas...
Comment ça s'est passé? Donc, parce que au début, j'imagine que tu n'as pas fait journaliste en disant, cool, je vais aller fâcher des gens.
Non, mais j'ai un parcours assez bizarre parce qu'en fait, j'ai commencé par être rédacteur en chef d'un magazine. En commençant. Donc, j'étais un petit peu pigiste avant, mais je crois qu'au bout de quelques mois, on m'a bombardé rédac chef et voilà. Donc, je venais de rien. C'est Riff Raff, le magazine, un magazine musical qui est maintenant gratuit. Ça fait 15 ans, 20 ans qu'il existe. Bien 20 ans bientôt, je pense. Et
c'est très pointu, ça sert sur la musique.
Non, c'est généraliste. Je crois que c'est un des derniers gratuits qui existe. Parce que moi, en fait, c'est vraiment de là que je viens. C'est la presse gratuite dans les années 90 où il y avait énormément de magazines musicaux.
Super business plan, encore une fois, pour être riche.
Ouais. Mais donc voilà, il y avait énormément de magazines musicaux. Moi, j'ai commencé par être rédacteur en chef à Riff Raff. Je suis parti de là. J'en ai discuté dernièrement avec une amie qui aussi pensait que j'avais été viré. Pas du tout, j'étais parti parce qu'on me proposait énormément d'argent, on me proposait beaucoup plus d'argent ailleurs pour faire un job beaucoup moindre dans la durée. Donc,
ok, ouais. C'était plus payant. Ouais.
C'était plus payant, c'était un peu un plan de rêve, et puis ça je peux pas trop en parler, mais c'est un truc qui était complètement foireux. Et
Ok, donc c'est un truc qui a jamais vraiment accouché.
Non, mais c'était pas un magazine culturel, ça n'avait rien à voir avec ça, c'était tout à fait autre chose. Moi, à l'époque, justement, j'avais commencé en sachant pas trop dans quoi je mettais les pieds. Donc j'avais commencé par faire une approche un peu décalée, puis commencer à assumer ça, et à la fin j'estimais avoir fait le tour et je voulais faire totalement autre chose, et puis sortir de l'adolescence, aller vivre avec mon ami de l'époque et avoir beaucoup d'enfants et vivre malheureux et se divorcer à 40, quoi. Donc c'était vraiment mon idée, puis voilà, ça s'est pas fait, je me suis retrouvé indépendant avec pas vraiment beaucoup de clients et tout, et là j'ai recommencé à faire du journalisme musical et culturel à ce moment-là à cadence plus soutenue, quoi.
Ok, et moi, si je t'ai fait venir, voilà, comme dans ce podcast-là où normalement j'interview des humoristes, c'est parce que ton style, que je peux qualifier, disons-le, d'intense, on y reviendra avec quelques exemples tout à l'heure, pour moi, c'est une forme d'humour. Est-ce que tu te souviens de la première fois, de ta première lettre de plainte, la première fois que tu as fâché quelqu'un?
C'était pas la première fois, mais...
La plus marquante, au début.
Moi, j'ai eu des menaces que j'ai pas pris au sérieux, mais qui étaient assez bizarres, de rappeur à un moment.
Okay,
rappeur belge.
À quelle époque, ça?
95, 96, j'avais critiqué un maxi d'un groupe qui s'appelait Starflame, qui n'existe plus aujourd'hui.
Ouais, il y en a qui ont encore des carrières solo, je crois.
Oui, il y a des carrières solo, mais je suis même pas sûr qu'il les continue, mais c'était pas si mal au fond, mais à l'époque, moi j'écoutais du rap américain, ça me semblait tellement bidon à côté que j'ai pas pu m'empêcher de faire deux jokes ridicules, parce que en fait chaque fois que t'as vraiment, enfin dans la presse écrite à mon niveau et de ce que moi j'en sais, chaque fois que j'ai eu des réactions c'était toujours sur 3-4 lignes, c'est jamais sur un article ou des choses comme ça.
Et tu te souviens de la formule que fâché?
Je crois que le morceau s'appelait La corde raide, et où le gars n'arrêtait pas de dire ouah, moi je suis sur la corde raide, et j'avais juste écrit va t'acheter des ciseaux, quoi.
Okay. Je pensais que t'allais dire un truc va te pendre avec.
Non, va t'acheter des ciseaux, tu la coupes et puis tu tombes, tu vois bien.
Ah oui, et donc c'est ça, lui il l'a pris comme étant,
ouais, c'est même pas une super vanne, mais voilà, ouais. Eux ils sont vraiment. Enfin, ce qui s'est passé, c'est que j'avais encore un répondeur téléphonique à l'époque avec une ligne fixe et tout ça.
Ouais.
Et quand je suis rentré un dimanche soir de chez mes parents, c'était blindé de menaces avec un accent liégeois, comme Starflame était liégeois, mais que j'avais des potes liégeois aussi, moi je croyais que c'était un pote, et puis j'appelais le pote, j'arrivais pas à la voir, donc je crois que je l'ai eu vers minuit, et je suis peut-être vraiment un con avec des vannes que je comprends pas, et il était là, c'est pas moi.
Et donc t'as seulement après réalisé,
je me suis dit,
ouais.
Putain, c'est des vraies menaces, quoi.
Et il y a eu une suite à ça?
Non, il n'y a pas eu de suite, mais par contre, comme ça m'a bien fait rire, après, je me suis offert 2-3 autres groupes de rap du même calibre. Donc,
pour comparer,
Il n'y a pas eu de suite par rapport à Starflame, mais il y a eu des suites avec d'autres groupes. Ouais. Mais c'était pas bien méchant, hein. C'était des gamineries.
Toi, t'as l'impression qu'on te prend plus au sérieux que tu te prends toi-même au sérieux?
Oui. Mais et j'adore brouiller parce que moi je suis quelqu'un que je m'en fous complètement de ce que les autres peuvent penser de moi, donc j'adore brouiller les pistes en fait. Je me rappelle notamment à cette époque-là où on tenait un stand au festival de Dour, où t'as un mec qui est venu et qui était là, ouais Serge Cosmans, moi j'aime bien ce qu'il écrit, mais je suis sûr que c'est un vieux et tout. Et avec une copine, on a, mais vraiment, on dit, ah ben ouais, mais bien sûr, mais au festival de Dour, il vient pas, il a 75 ans. Et là, il est à Malaga en train de
c'était quasiment auto-trollé, quoi.
Comme ça. Ouais, ouais. Et le gars l'a totalement cru.
Ouais. Et donc, là, tu t'es mis à t'amuser, c'est ça qui t'amuse, quoi.
Ah ouais, non, bah, c'est mon genre d'humour. C'est le mindfuck, c'est mon total genre d'humour, quoi.
Et il y a des gens avec qui t'as fighté, qui ont capté, et puis avec qui t'es un peu pote maintenant aujourd'hui?
Pas vraiment pote, mais il y en a avec le recul qui capte assez bien en fait. Et j'ai pas. On parle souvent, enfin il y a une légende qui a souvent des réactions négatives et que je suis invivable et imbuvable et des trucs comme ça, mais en fait il y a beaucoup des réactions. Soit bon, ouais, je suis pas à un niveau énorme non plus, hein, donc il y a aussi les gens qui connaissent tout simplement pas, mais ceux qui connaissent, il y a des fois, oui, même si ça met des années ou quelques mois, ou après ils se disent bah ouais, on a capté que c'est de l'humour, c'est un peu con qu'on soit les têtes de Turc, mais je sais avec Montevideo, il y a dernièrement, c'était un groupe pop. Qui reconnaissent eux-mêmes que leur premier album était très mauvais et que
okay, avec qui
ils sont
tu
à
peux.
Un autre niveau. Ils sont là, c'était un peu chiant d'être les têtes de systématique, mais on reconnaît qu'on n'était pas à un niveau terrible, quoi. Et ça s'est très bien pris, on a bien rigolé,
et
voilà.
Et t'as déjà eu envie à un moment donné de dire, ok, je vais faire un billet une fois pour toutes pour dire que c'est juste un personnage, qu'il faut pas virer fou, qui. Je te dis ça parce qu'il y a moi, un de mes préférés dans qui fait de l'humour assez trash, c'est un gars qui s'appelle Anthony Jeselnik, c'est un Américain qui fait des roasts entre autres. Et j'avais entendu une interview de lui qui disait un show, parce qu'il disait avec ton style, des fois ça doit mal se passer. Il avait répondu oui, des fois ça se passe mal, mais pour moi ça c'est pas un échec. Une soirée où personne rigole, c'est pas un échec. Une soirée où je dois sortir de mon personnage pour dire hey, calmons les gars, c'est juste un personnage, ça pour moi c'est un échec. Si je dois sortir de mon art, si tu veux, là c'est un échec. Toi t'as été tenté à un moment donné de dire hey, restez tous bien calmes, c'est juste
non,
des blagues.
Non, moi quand ça me prend la tête, je suis tenté de me barrer.
Ok, je vais faire autre chose, je me casse.
Oui, oui. Mais m'expliquer, non. Pas me justifier, pas m'expliquer. Non, non.
T'es un peu un petit con qui, par définition, si on te dit t'as pas le droit de le faire, tu vas le faire?
Non, je pense pas. J'ai des limites, je pense aussi, même. Mais
je veux dire, c'est où ta limite? Est-ce qu'il y a des fois où tu t'es dit ça me ferait rire ou moi je pourrais. Mais. Non, ça, je vais pas aller sur ce territoire-là. Il y a des territoires que tu t'es. Pas dire l'auto-censure, c'est toujours vu comme étant négatif, alors que c'est pas nécessairement négatif. Des fois, c'est juste une question même d'intelligence, mais c'est quoi toi?
Je suis pas trop pour la censure, mais. Enfin, c'est la quarantaine, hein, mais. J'estime qu'il doit y avoir une certaine responsabilité, mais ce que je pensais pas du tout avant, mais.
Non?
Oui. Parce qu'on est dans une autre situation, je veux dire, je ferai jamais de vanne sur les islamistes si ça peut mettre du personnel d'ambassade en danger, quoi.
Ouais, est-ce que Charlie Hebdo, c'est ça?
Ouais, ouais.
Ça, pour toi, tu trouves ça inutile?
Ouais, je trouve ça. Non, je suis pas pour les censurer. Je suis certainement pas pour qu'il y ait un ministère qui décide de ce qui peut être publié ou pas, mais. Je dis les mecs qui devraient quand même réfléchir un peu, quoi. Quand t'as des trucs genre Salman Rushdie ou les Monty Python, il y a 30 ans, c'était pas la même situation. Les gars avaient fait quelque chose de sensé, d'intelligent. Ici, c'est juste. Je sais pas, moi je vois
c'est plus un coup de pub qu'un coup
de. Ouais, c'est un coup de pub, c'est pour se faire du fric facile, c'est pour se mettre tous les fachos dans la poche. Et en même temps, c'est histoire d'aller dire aux mecs, vous êtes vraiment des crétins qui vivaient encore en 1470, quoi.
Ah ouais,
moi je vois ça comme ça et je trouve ça. Je suis pas spécialement contre cet humour. En privé, je fais de l'humour raciste, mais inimaginable, quoi. Mais
ben ça, c'est si t'es en public et tu fais de l'humour raciste, puis tu dis oui, mais je vous assure, je suis pas raciste. C'est comme dire
c'est
je suis un con de raciste,
ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est con.
Ouais. Ça apporte rien. Hein.
Moi, j'aime bien l'humour raciste hyper trash parce que ça, j'estime que quand c'est bien fait et que c'est fait avec quelqu'un qui n'a aucune suspicion de racisme ou quoi que ce soit, ça se fout plus des racistes que de quoi que ce soit d'autre, quoi.
Ben, c'est montrer le ridicule de la position.
C'est tellement exagéré, c'est de la caricature et voilà, c'est drôle.
J'ai déjà dit quand j'ai reçu Cody, mais moi aujourd'hui, un black qui fait des blagues de black, ça me fait pas rire parce que je trouve ça convenu. Je trouve que c'est Richard Pryor le faisait dans les années 70, repris par Eddie Murphy, Chris Rock, tout ce que chacun à leur manière. Aujourd'hui, un blanc qui fait des blagues de black. Ça me fait rire à condition que tu saches qu'il soit pas raciste.
Ouais, il peut faire des blagues de flics.
Et mais justement, Didier Super, je sais que j'en parle souvent dans ce podcast-ci, mais c'est à la fois j'ai aimé ce qu'il a fait, à la fois j'étais un tout petit peu déçu quand j'ai vu le spectacle et qu'il fait une série de blagues. blague et qui, à un moment donné, prend une minute justement pour dire, vous comprenez que c'est un personnage, et l'explique. Et oui, tu dis, imagine le nombre de baffes qu'il a dû se ramasser sur la tronche parce qu'en faisant ce personnage-là, il savait qu'il allait s'en prendre, il s'en est pris plein, il est quand même arrivé au point où il s'est dit, ok, fuck it, j'en ai marre, Disneyland, il en est pas là, mais tu sens que ça veut dire que ça l'a atteint à un moment donné, quoi.
Je trouve qu'il y en a de plus en plus qui le font, c'est ça que moi j'aime bien, ceux qui ne le font pas, justement.
Ceux qui ne disent, ont pas à dire, bah, c'est ça.
Jean Veil le fait pas, il en a même, quand il a eu le scandale avec les Golden Globes, la première présentation, il en a même rajouté, je trouve ça génial, quoi.
Ce qui était super, ben déjà, il disait, les gens m'ont engagé en sachant qui je suis, ils savaient ce que j'allais faire, mais si vous avez l'occasion, allez voir l'interview qu'il a donné à Piers Morgan, donc c'est le remplaçant de Larry King sur CNN. Ouais. Et sa manière de tourner les choses à Ricky Gervais, c'est là que je l'ai trouvé génial, parce que si tu commences à te justifier, t'as tout de suite l'air coupable. Et lui, au lieu de se justifier, une des premières questions de Piers Morgan, c'était et comment est-ce que t'as dû. Est-ce que quand t'as écrit les textes, est-ce que tu t'es censuré à un moment donné, ou est-ce que tu t'es dit ça, je le dirai pas parce que ça va fâcher les gens? Une question à ce style-là. Et Ricky Gervais dit Ben non, mais je pense pas que. Jamais je pouvais croire que ça allait les fâcher. Pensez-y. Si je crois que ça va les fâcher, ça veut dire que je considère que les gens à Hollywood n'ont pas d'humour. Ce serait bête de ma part de croire que des gens qui font le cinéma n'ont pas d'humour. Et tu sais ce qui, tu vois ce qu'ils viennent de faire. Ils viennent de forcer un peu la main, mais c'est vachement bien joué. C'est ça, moi, j'ai trouvé génial en disant, le mec part du principe que il a rien fait de mal et il va pas dire, ah non, je vous jure, j'ai rien fait de mal. Il explique comment lui voit les choses.
Je pense qu'il est un peu sournois. Je suis pas certain que ça soit un chic type, mais
lui, je pense pas non plus.
Les gens qui assument, je trouve ça extraordinaire. Par rapport à ceux, voilà,
il y a Québécois, c'est vrai.
Pas de travers et après il s'excuse. Ça, je trouve pas ça marrant en fait.
Une minute de gag pour 3 minutes d'excuses, ça marche pas.
Ouais, non, ça c'est l'horreur.
Tu sais, moi j'ai un gag que je fais plus dans mon spectacle que je trouvais drôle. J'ai testé 2-3 fois, je trouve que le gag est drôle, mais vu que j'avais rien derrière, je me sentais obligé de m'excuser, c'était nul. Je faisais 3-4 blagues sur la Belgique, puis je dis, ah, je déconne, mais en fait, j'aime vraiment bien la Belgique. À preuve que c'est vrai, j'ai décidé de me faire opérer pour devenir flamand. Je vous jure, ça existe. Il y a une opération, la lobotomie. Ce qui est, je trouve drôle, mais complètement gratuit. Il y avait rien sur les flamands avant. Les flamands m'ont jamais rien fait. Il y avait rien après.
Si, maintenant ça commence comme ça.
Et j'avais franchement rien à dire. Donc c'était vraiment gratuit pour gratuit. Et j'étais mal à l'aise. Donc j'ai dû. Et ça me fait chier parce que je trouve que dans l'absolu, c'est une bonne vanne. Ouais. Mais elle avait pas sa place. Donc au lieu justement de la faire et de m'excuser après, je l'ai enlevé. Il y a des fois où tu aurais envie de t'excuser ou tu l'as pas fait par principe?
Je crois que ça n'a jamais été jusque-là.
Parce que bon, revenons donc à Starflame, pour reprendre un truc un peu chronologique.
Ouais, c'était des gamineries d'une époque sans internet aussi, donc ça mettait beaucoup plus de temps à communiquer entre les gens et tout.
Ça buzzait pas comme aujourd'hui.
On envoie des pigeons et tout.
Ouais. Et ça, c'est la question que j'ai, parce que donc je suis ce que tu fais sur via Facebook, je vois les trucs passer. Et il y a quand même une question, à un moment donné, je me posais, est-ce que ça devient limite un baromètre, voire une drogue, en disant, ok, cette fois-ci j'ai reçu 17 insultes, ça veut dire que c'est un bon papier, j'en ai 32, c'est un papier génial. Est-ce que ça fuck un peu ta manière d'écrire?
Non, le baromètre c'est pas ça, c'est plutôt le nombre de likes et de partages, de recommandations, c'est pas tellement les insultes, ça je m'en fous.
Ouais,
je suis souvent le premier étonné quand elle s'amène, parce que moi j'ai pas l'impression d'être spécialement trash, d'avoir des partis pris, une tendance à la provocation et des choses comme ça, bien sûr, mais j'ai pas l'impression d'être le pire du lot, quoi.
T'as des ennemis réguliers ou c'est des ennemis qui changent en fonction de quand t'écris sur eux?
Ben j'écris plus tellement sur des groupes et sur des gens spécifiques, hein. C'est plutôt des organisations de soirées, des choses comme ça, mais
j'ai en tête la RTBF DJ Experience. Moi j'ai vu ça de loin, donc honnêtement j'ai pas super suivi. Tu sais que je travaille pour la RTBF, c'est pas le vieux guet-apens. Non, c'est comme ça, c'est dire là que ça pas, j'ai dit, j'ai travaillé pour la RTBF, j'ai vu que t'avais fait un papier, t'avais fait entre autres, je crois que c'était Quentin Mosimane qui était surtout critiqué.
Mais non, même pas, encore une fois, Quentin Mosimane, ça prenait directement 3 lignes, quoi.
Et qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là? Parce que c'est lui que j'ai vu. En fait, moi aussi, je juge en fonction de la timeline sur Facebook. À un moment donné, tu vois 82 personnes qui ont partagé quelque chose. Tu te dis, oh,
ouais,
il est en train de se passer un truc.
Ce qui s'est passé, c'est que le Quentin Mosimane, il a fait un peu la chochotte sur son Twitter et sur son Facebook. Et puis, ça a complètement excité son fan club de base.
Ok, il s'est plaint de ta critique, c'est ça?
Je crois, parce que je sais même pas si j'ai pas été bloqué, j'avais un peu du mal à accéder au truc, quoi.
Et c'est surtout donc les fans qui. Parce que lui, il y a des fans super loyaux en plus.
Oui, mais je pense que c'est comme Myriam avec Madonna et Apple, quoi.
Oui.
Il y a des trucs visibles. Moi, j'y pense pas, quoi. Attends, quant à Mosimane, c'est vraiment pas mon univers.
et taper sur Quentin, justement taper sur Quentin Moziman alors que toi t'es fan de trucs assez pointus.
C'est le spectre totalement inversé, surtout dans cette musique là quoi.
C'est, et ça je m'étais posé la question parce que tu dis c'est ça, je sais pas ce que j'ai fouté là, aller à la RTBF DJ Experience, et comment tu fais pour faire un peu
le coup pour, parce que on, la rubrique avait stoppé pendant les vacances, enfin pas encore une partie des vacances, donc il y a quand même envie de marquer le coup pour un retour, donc c'était vraiment sortir un peu de sa zone de confort, pas aller au bazar, pas aller au chez Mr Wang ou un truc comme ça, et se taper un machin où a priori je sais pas quoi dire, qui me pose un peu un petit challenge aussi quoi.
Et mais il y avait aucune façon qu'il allait avoir une critique positive qui pouvait sortir de ce truc là.
Ça aurait pu, oui.
Moi je me suis dit quand j'ai vu ça, je fais ouais mais d'office il va y aller, d'office il va déglinguer le truc. Ça,
on était dans de bonnes dispositions avec pas vraiment d'a priori en fait. Ça a duré 35 secondes, je pense.
Donc, t'as 40, 43 vendredi.
Ouais.
Tu sors encore beaucoup. Tu vis plus la nuit que le jour?
Non. C'est plutôt.
Tu sors combien de fois par semaine?
Plutôt le week-end, pas vraiment en semaine. À part si on peut. Non, pas spécialement en semaine.
Et tu bois beaucoup?
Ouais, quand même, ouais, mais j'ai pas vraiment de soucis avec ça.
Mais t'as pas une gueule de défracté. Je veux dire, t'as...
Je fais moins que mon âge.
Ouais, non, mais honnêtement, t'as pas... Avec ce qu'on... S'il y en a qui lisent tes papiers, on voit, on a l'impression que ça va être un zombie. D'ailleurs, tu m'as dit que t'étais semi-allergique à l'ail tout à l'heure avant de passer le podcast.
Oui, c'est un vampire, ça, c'est pas un zombie.
Donc, c'est...
Les balles d'argent aussi.
Tu t'es fait des... Je sais que je vais te dire que je fais une fixation, mais c'est une fixation. Tu t'es fait des ennemis semi-permanents? Des gens à qui tu boxes et si
pas dans le monde sérieux, dans le monde des blogs, oui.
Mais dans le monde des blogs, ça, c'est pas rare le fait d'avoir des fights.
Non, d'abord c'est pas rare et puis tu sais pas non plus d'où ça vient et t'as certaines personnes de la blogosphère, comme on dit, dont c'est la spécialité, donc moi c'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir quoi. En fait je vois ça un peu comme, c'est assez malsain parce que ça met quand même des personnes réelles qui sont de l'autre côté de l'écran, il y a une personne réelle, mais moi je vois ça assez comme un jeu électronique quoi. Donc je fight, et puis à un moment, Serge, il faut venir manger, boum, t'éteins le truc, et puis t'as complètement oublié, ces gens-là n'existent plus, quoi.
Toi, c'est ton cas, tu crois que de l'autre côté de l'écran, c'est la même chose? Et voilà, c'est ça.
Ah non, de l'autre côté de l'écran, il sait plus manger tellement qu'il est énervé. Quoi.
Et c'est ça qui te fait marrer.
Oui, en partie.
Parce que pour toi, ça demeure un peu... dis-moi si la comparaison est bonne, mais t'as des clubs de hooligans qui appellent d'autres clubs de hooligans, qui se donnent rendez-vous dans le bois, mais qui se mettent sur la tronche, et après, limite, ils se donnent la main, puis ils repartent chacun de leur côté.
Le hooliganisme, c'est un sujet qui m'intéresse, en fait. Un de mes bouquins favoris de tous les temps, c'est Parmi les hooligans de Bill Bufford, qui est un journaliste américain ou anglais, je sais plus.
Je crois qu'il est anglais.
Ouais, je crois qu'il est en... Non, je... Oh, je sais plus, mais
il parle en anglais, hein.
Ouais, maintenant il s'occupe d'une revue à Granta, New York et tout ça. Mais il a fait ce bouquin où en fait il est américain parce que voilà, il s'est amené
en
Angleterre.
Ça, je disais, je crois qu'il est américain.
Ouais, il s'est amené en Angleterre. Il s'est rendu compte qu'il avait des amis qui étaient hooligans alors que c'est des gens qui étaient directeurs de banque ou je sais pas quoi.
J'ai entendu.
Il les a suivis. Et c'est vraiment un reportage fantastique parce que tu vois comment le cerveau des gens peut switcher avec l'effet de masse et des trucs comme ça. Il y a des pages mais extraordinaires sur le fait qu'ils se retrouvent avec l'équipe de Liverpool, enfin avec les hooligans de Liverpool à Turin, et que les mecs de la police les attendent avec des chars d'assaut quoi.
Des chars.
Bah oui, attends, avec le Hazel, il y a une vengeance entre les deux trucs.
Ah ouais. Moi j'ai entendu des gens, et même en Belgique, qui près de la frontière, qui vont se donner rendez-vous en disant qu'ils arrivent avec 20 de tes gars, on arrive avec 20 de nos gars, pas d'armes blanches. Et puis fight,
ouais. En fait, ça je l'ai jamais raconté dans les sorties de route du vif ou du bouquin parce que ça s'est passé bien longtemps avant que cette rubrique n'existe. Mais j'ai passé une soirée super hardcore avec des hooligans et j'étais accompagné d'un hooligans d'une équipe qui n'a pas pu s'empêcher de se foutre la gueule des hooligans de l'autre équipe, et on a passé les 12 heures d'après à parlementer pour pas se faire buter quoi.
Parce qu'il est allé tout seul contre...
Mais non, mais c'est idiot, on était dans un bar genre à 6 heures du mat à vraiment prendre le dernier verre, et puis les mecs sont rentrés parce que je sais pas, ils venaient de descendre du train ou je sais pas quoi, et il y avait un match qui se passait à l'après-midi.
Donc eux étaient frais du matin?
Ouais, ils étaient pas si frais que ça non.
Ok.
Et c'était des étudiants quand même, mais menés par un vrai mec comme dans les films de Gucci, quoi, avec le crâne chauve, le tatouage dans le cou, les bagouses.
Il y a des coups jusqu'aux oreilles, quoi.
Ouais, et celui-là, à un moment, ma Claire m'ont dit « Toi, t'as l'air de t'en foutre, on te considère comme un gros PD, mais lui, sur un field, donc un terrain de foot, on le tue, quoi. » Et finalement, on a picolé jusqu'à se faire foutre dehors du bar vers 14h.
Ah ouais, avec eux.
Ouais, sympathiser avec les hooligans, danser avec les hooligans, quoi.
Sérieux?
Ouais.
Ah, tu m'étonnes que t'aimes sortir après, si de temps en temps il t'arrive des trucs comme ça.
Ouais, non, mais c'est. Après, je me rappelle pas tout, parce que quand même, l'alcool a bien excisé. Mais,
jusqu'à 14h, bah, comment tu fais jusqu'à 14h, moi, ça va.
Je sais pas. Et comme je sors avec des gens qui parfois prennent des trucs pour que la fête dure plus longtemps, moi, je prends rien, et ils sont parfois assez étonnés du fait que je puisse
ta résistance, ouais.
De ma résistance, voilà.
Mais quand je vois ceux qui ont une résistance et qui sont capables de boire pendant 12 heures et qui le lendemain ils se disent ah, il doit y avoir de quoi dans mon verre parce que je suis un peu j'ai un peu de mal. Tu fais, oui, il y avait de quoi dans ton verre, il y avait 3 litres d'alcool, c'est ça qu'il y avait. Mais c'est t'écris quand t'es bourré, toi, ou pas? Ou t'écris quand t'es bourré, tu te relis quand t'es sobre?
Bah,
mieux vaut ça que l'inverse.
Si je rentre vraiment dans un sale état, je dors pas assez pour me dessouler. Donc, de toute façon, je commence à écrire en étant encore un peu faible, parfois, pas tout le temps.
Tu fais partie des gens qui arrivent à bien écrire bourré ou?
Non, c'est mais j'ai un ami. Non, écrire vraiment bourré, écrire, je refuse, mais tout, je n'ai rien, c'est vrai. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Je suis pas très bon en dactylo, donc de toute façon, je dois regarder les touches.
Ah oui, et quand t'es bourré, les touches, c'est
ouais,
pas super.
Ça, avec l'âge, je recommence à pouvoir enlever mes lunettes pour voir de près et tout, donc c'est...
ça doit être beau.
Ouais. Mais j'ai un ami qui m'a envoyé... C'est visiblement une citation d'Ernest Hemingway où c'était write drunk, edit sober.
C'est pas
bon. Excellente.
C'est ça qui est horrible aujourd'hui avec Twitter et Facebook. Quand tu bois, moi de temps en temps, je bois l'un ou l'autre verre et tu te dis, il me semble que je suis drôle. Là, je suis bon. Là, t'en lâches 5, c'est parce que tu prends confiance en disant, je suis dans une bonne page. Et le lendemain, tu regardes ça et tu fais, ah. Je suis pas fier de ce que j'ai écrit.
C'est une catastrophe. Moi, j'évite au maximum. Je crois qu'il m'est arrivé des trucs comme ça, mais c'était pas. C'était dans une situation plus tendue avec ma compagne de l'époque et des choses comme ça. Où...
Non, tu mettais des trucs sur Internet?
Bah, je rentrais de soirée, j'avais envie d'insulter
non
du monde, quoi.
Alors que t'étais encore avec ta copine?
Non, on n'était plus vraiment ensemble.
Donc, insulter son ex et t'habitais encore ensemble, comme ça rendait le coup.
On habitait ensemble officiellement, ouais, mais.
Les gens qui te connaissent pas et qui te découvrent. Qu'est-ce que t'aimerais qu'ils pensent de toi? Tu me dis, t'arrêtes pas de dire que tu t'en fous, mais si t'avais à choisir.
Non, vraiment, je m'en fous. Bonjour les gens.
Parce que c'est super rare. Tout le monde dit qu'il s'en fout. Moi, je dis que je m'en fous, mais c'est pas vrai. Moi, j'avais lu un endroit. D'ailleurs, je crois que c'est toi qui l'avais posté, ça. Une mauvaise critique devrait te gâcher le petit-déj, mais pas le lunch.
Ouais, c'est Kingsley Amis qui avait dit ça, le père de Martin Amis. Ils sont tous les deux des grands romanciers anglais.
Et j'avais trouvé ça fort, parce que c'est vrai que moi, je fais des spectacles. D'office, par définition, c'est Gileno qui dit dans l'humour, tu peux pas avoir un fan sans avoir quelqu'un qui te déteste avec la même intensité. Mm-hmm. Et des fois, t'as 8 personnes qui vont te faire un mot gentil et t'en as une personne qui va te dire que c'était de la merde. Et l'espèce de réflexe, c'est de répondre à celui qui dit que c'était de la merde au lieu de considérer ceux qui t'aimaient. Et moi, je sais que je dois faire gaffe parce que je sais que ça m'affecte, mais il faut que je lutte en me disant « Ok, ça m'affecte, t'as le droit de m'affecter une heure, puis après ça, il faut que j'en revienne. » Donc, je suis quand même assez conscient de ce qui arrive. Et toi, t'as...
Moi, je crois pas que j'ai eu l'occasion non plus de faire énormément de trucs où énormément de gens pourraient se lancer dans la critique, quoi. Ça touche quand même un public relativement restreint. Ce qui revient généralement, c'est que les gens sont pas d'accord avec le fond, la forme. Généralement, il y a pas trop de soucis. Ils aiment bien.
Sur internet, quelqu'un m'a demandé, Serge, est-ce que tu fais exprès pour te faire détester?
Non, mais comme ça me pose pas trop de soucis, je fais pas non plus exprès de me faire aimer, quoi.
Ouais. Donc t'aurais aucun problème à, si un jour tu te réveilles avec l'envie de faire que des papiers gentils, tu le ferais?
Mais je l'ai fait, je n'arrête pas de le faire. C'est ça qui me fait beaucoup rire, c'est que les gens retiennent les papiers un peu méchants, et c'est même pas forcément méchant, c'est parce qu'il y a 3 lignes qui les dérangent ou qui vont un peu à l'encontre de la pensée habituelle ou du consensus, on va dire. Pas la pensée habituelle, c'est ridicule, on dirait du Zemmour. du consensus, voilà. Donc ça va un peu à l'égard, mais moi j'ai pas l'impression d'être très méchant. Je veux dire, quand j'ai commencé à faire ça, on était beaucoup plus à le faire dans les années 80, les gens le faisaient dans les magazines, ils le font en Amérique, ils le font en Angleterre. Moi j'ai pas l'impression d'être super méchant, quoi.
T'es pas du tout humoriste, mais ta logique en matière de, je veux dire, de trashitude ou de possibilité de fâcher les gens ou de quoi que ce soit, c'est vraiment, je me mets moi-même en danger pour arriver à faire un truc bon ou qualitatif ou drôle.
Non, en danger, c'est pas l'Afghanistan non plus. Hein.
Non, mais je veux dire, la plupart des gens qui font des... quand tu fais un truc public, c'est pour avoir des gens qui te disent que t'es bon, quoi. Il y a personne qui fait de la... Quand t'entends quelqu'un qui fait de la musique en disant « j'ai fait mon album pour moi », ben... pourquoi tu l'as sorti, parce que là, c'est des couilles.
Je le fais pas pour moi, mais c'est...
Je veux dire, c'est public et c'est pas la voie facile, quoi.
Je pense pas, ou du moins pas souvent, avec un public en tête, quoi.
Non ?
Non.
Ah, ça, non, mais ça explique des choses, en ce cas-là.
Ouais, moi, c'est sortir le truc de moi, quoi. Après, il y a des... avec l'âge, l'expérience et tout, il y a des petites recettes et des trucs machins comme ça, mais...
Donc, limite, t'es quasiment surpris des réactions. Ou peut-être
ça m'arrive, ouais.
Plus maintenant, j'imagine, à la longue, mais...
Madame Simon, c'est un univers totalement inconnu pour moi. Moi, je m'attendais pas du tout à ces gamines complètement hystériques qui voulaient me pendre, quoi.
Et tu fais quoi à ce moment-là? Parce que d'un côté, tu dis, elles ont des réactions bizarres, mais d'un autre côté, elles sont vraiment fans, elles sont pas méchantes, elles sont... J'imagine que tu tapes pas très fort là-dessus.
Bah, ça dépend, non. Quand tu vois que c'est vraiment... un peu bête, on va dire. C'est pas des gens avec beaucoup de réflexion. On laisse pisser, je vais pas non plus rebondir à la moindre...
Tu veux pas être le gars filmé en train de taper un handicapé dans un...
Moi, si l'handicapé est vraiment chiant, y a pas de souci. Hein.
Car oui, on peut être un connard même si on est handicapé.
Dans un concert, ça m'est presque arrivé. Parce que,
sérieux?
Oui, il y a un mec en chaise roulante, il arrêtait pas de me rouler sur les pieds.
Et qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, on lui a dit, t'as pas envie d'aller rouler ailleurs? Et voilà quoi, c'était presque la grosse fight. Parce que tout le monde était choqué qu'on puisse parler comme ça à un handicapé, mais franchement, il faisait mal quoi. Je veux dire, c'était pas la petite chaise roulante de la mutuelle, c'était un gros truc presque kité, tuné, tout ça. Donc, et le gars, il était là, c'était un concert de Cold Cut, je crois, ou enfin un truc Ninja Tune. Et il dansait avec ses roues quoi. Donc, moi, bang, chaque fois dans ma jambe une roue, ben ça m'a pas trop plu, hein, au bout d'un moment quoi. Et comme il y avait du monde, j'avais pas bougé non plus, donc j'étais un peu condamné à être insultant avec un handicapé, à faillir me battre avec lui.
Oh, mais
ils sont vicieux, hein, parce que bon, ils sont pas très hauts, donc ils tapent où il faut quoi.
Mais en plus, j'imagine que quand t'es handicapé, tu le sais, peu importe ce qui arrive, tu tournes le coin de rue, tu vois deux personnes s'engueuler, un handicapé et quelqu'un qui est sur ses jambes, d'office tu vas te défendre l'handicapé quoi.
Non.
Non, mais toi, non, mais toi, t'es construit pour faire
non,
chier.
Non, changer de trottoir.
En disant, oh, pas ma merde. Non, mais souvent, on règle les conflits comme nos mères réglaient les disputes entre enfants, en donnant raison aux plus faibles sans se demander vraiment qui avait réellement raison.
Moi, je suis fils unique, j'ai toujours eu raison.
Voilà, là, on commence à comprendre. On commence à comprendre d'où vient le petit côté enfant roi, je m'en fous, je dis, je fais ce que je veux. Failli se battre avec un... Oh. Et si t'avais frappé en premier, t'aurais fait quoi?
Je crois que j'aurais pété un câble, franchement.
Ce qui est trash peut être drôle.
Oui, oui, bien sûr. Mais moi, j'ai le souvenir d'être tombé par terre de rire dans une librairie en ouvrant le Hitler égale SS de Villemain qui a été interdit ensuite.
C'était Hitler égale
Hitler égale SS, c'était une bande dessinée de genre 50 pages sur les camps de concentration, quoi. Je n'en pouvais plus. J'ai dû lâcher le bouquin, j'ai dû sortir, boire un verre d'eau, parce que j'étais mais mort, explosé.
Et ça a été interdit ensuite?
Et les gens me regardaient, parce qu'ils voyaient ce que je lisais, ils me regardaient d'un air complètement choqué. Ouais, je crois que ça a été interdit, ou du moins il n'a pas été réédité.
En même temps, tu l'as vu dans une librairie, le livre?
Ouais.
Qu'il le vendait?
Ah ouais.
C'est comme te faire juger, si tu veux acheter des sextoys, te faire juger par la vendeuse, en disant, oh, mais qu'est-ce que vous achetez?
Ah non, mais les gens du magasin, c'était pas eux, hein, c'était la clientèle.
Ok.
Qui venait acheter les schtroumpfs ou Johan et Pirlou, tel scrameustache, ou qu'est-ce que je sais, quoi.
Ouais.
Mais à part ça, oui, je suis pas non plus... c'est pas le trash pour le trash, quoi. Il faut que ça soit bien fait, il faut que ça ait un sens.
Et tu peux voir de l'humour trash qui est nul à chier aussi.
Bien sûr, mais ça, n'importe quel journal d'étudiant, t'as des crobards d'humour trash complètement nul, quoi.
Il y en a qui pensent qu'ils se font refuser leur papier parce qu'ils sont trop libres, mais des fois, c'est juste parce que c'est pas bon. Ça peut arriver aussi,
bien
ça.
Bien sûr.
C'est pas parce que c'est de l'humour de... Moi, je fais de l'humour de Mickey Mouse. C'est très bien. De l'humour pour toute la famille. C'est genre safe for work. Et je sais, j'en ai conscience. Seinfeld faisait la même chose, beaucoup mieux que moi. Je me rends compte que je me compare à Seinfeld et peut-être pas.
Joli.
Mais c'est ça. Juste comme ça, je glisse c'est des petits messages subliminaux. Mais je trouve pas que c'est d'office Satan de faire de l'humour pour toute la famille non plus. C'est pas obligé d'être naze, comme c'est pas obligé d'être génial parce que tu oses et que t'es trash. Ouais.
Ah ben moi, je me souviens d'avoir été appelé pour travailler au journal de Spirou. Je devais faire des scénarios de mini-récits à un moment ou des petites capsules, enfin une demi-page d'humour et tout. Et il fallait que ça soit du premier degré. C'était super compliqué, je m'en sortais absolument pas quoi. Donc ça devait être de l'humour justement pour 7 à 77 ans on va dire.
C'est pas en toi?
Ah non, moi c'était bizarre parce que c'était Thierry Tinlot à l'époque qui était le rédacteur en chef et en fait tout ce que lui aimait bien de ce que je fournissais j'étais gêné à la limite de que ça soit plus.
Ah oui.
Parce que moi j'adorais le pseudo. Il aimait pas, tu reprends, tu retravailles.
Et pourquoi il t'avait engagé?
Parce qu'à l'époque, j'écrivais une rubrique dans un magazine, enfin dans un gratuit qui s'appelait Zone 02, qui est devenu une espèce de VLAN où il n'y a plus que des annonces d'auto et des trucs comme ça. Mais pendant 3 ans, ça a été un magazine qui parlait de Bruxelles, avec les restos, des bars, des interviews d'artistes et tout ça. Et moi, j'avais, entre autres, parce que je faisais quand même pas mal de choses, des interviews, la rubrique bar aussi déjà à l'époque. Mais j'avais un édito, une sorte d'édito que je signais sous le nom de Jean-Charles Bronson. Et ça a eu, comme c'était très bien distribué ce magazine, que c'était un très gros tirage, ça a eu un certain retentissement, quoi.
Et pourquoi
Donc,
t'avais un pseudo?
j'ai pris un pseudo parce qu'en fait, ça, déjà, ça amusait Jean-Charles Bronson, c'est quand même plus con comme pseudo, il n'y en a pas, quoi. Et puis, au départ, c'était parce que c'était pas censé durer, en fait, ils avaient demandé à Hugues Daillé
Ok.
de 5 heures là, de la RTB
Oui.
de le faire. Et je sais plus s'il avait refusé ou s'il n'avait pas eu le temps. Et donc, moi, je devais juste, pour le premier numéro,
Ah, ok.
faire le bazar, et c'était pas censé rester, quoi. Et en fait, ça a assez vite pris. Et les gens en redemandaient. J'étais cité dans des journaux. Ils disaient, ouais, en matière d'humour, dans la presse, c'est quand même assez chouette et tout, quoi.
Toi, t'as envie un jour d'écrire des spectacles comiques, de faire de la scène, de faire des trucs comiques?
La
Parce que...
scène, non, non, moi je pourrais pas. Je suis pas quelqu'un de timide, mais j'ai
Pas
pas envie
envie.
de me retrouver
Écrire
avec
des
2000
séries.
Pékins devant moi.
Ouais.
Écrire des séries, oui, mais je suis pas sûr de. Je pourrais le faire, oui. Maintenant, peut-être, oui, mais.
Parce que mon point, c'est que je connais
Moi,
mon...
quand j'étais plus jeune, j'avais. Par rapport à tout ce qui était écriture, parce qu'évidemment, j'ai voulu faire comme tout le monde, écrire des bouquins, des
T'en as
scénarios,
fait
des
des
machins.
livres ou pas?
J'ai commencé. Non, parce
T'en
que
as commencé 200?
je savais jamais quoi écrire, en fait. Le truc, c'est que je savais pas quoi raconter.
J'ai
Donc, je
entendu un truc.
tombais dans un espèce de systématisme où ce que je commençais à écrire ressemblait à ce que je venais de voir à la télé ou au cinéma, quoi.
Ouais.
Et donc, à un moment, pendant 10-15 ans, dès que tu avais deux phrases qui s'écrivaient l'une à la suite de l'autre, ça ressemblait à un dialogue de Tarantino, mais alors du sous-sous-sous-Tarantino, quoi.
Et c'est vraiment la fois où t'as écrit un truc où le mec met un masque de chauve-souris que tu t'es rendu compte qu'il fallait.
Non, maintenant je crois que j'ai des choses à raconter, mais je sais pas encore très bien comment les raconter. Mais ça évolue, je suis assez lent, hein, donc pour 50,
Ouais.
55 ans, je crois que j'écrirai
Pour
peut-être
ça
un
que t'as
truc,
l'air
quoi.
jeune, en fait. C'est que t'évolues tranquillement.
Ouais, c'est ça.
J'ai vu... T'as vu le documentaire sur Woody Allen?
Ah non,
Il est
non, non.
super... Ben, si t'aimes Woody Allen, il est super. Sinon, tu vas te faire chier parce que c'est Woody Allen pendant
J'aime
autant.
Woody Allen, le côté burlesque des premiers, surtout.
Banana, entre autres.
Non, mon préféré, c'est Love and Death.
Ah, je le connais pas, lui. Comment?
Love and Death, c'est où il s'attaque à la littérature russe.
Okay. Oui, encore un film là-dessus.
Non, non, mais c'est vraiment le film burlesque avec des gags à la Benny Hill, mais avec Woody Allen et Diane Keaton, donc il y a quand même une
Ah ouais.
réserve et une façon de l'aborder, mais il y a une poursuite autour de Napoléon avec un pot de chambre, quoi, donc.
Dans Bananas, c'est le nouveau burlesque, il y a un truc où, en gros, son point, c'est qu'il y a un dictateur qui est mort et ils font un casting pour trouver le meilleur dictateur pour suivre.
Je l'ai vu il y a très longtemps, mais.
Et à un moment donné, ils doivent rentrer dans une espèce de... Genre, il y a des épreuves telles que la fusillade de l'innocent et des trucs un peu
Ouais,
débiles comme
bah
ça.
ça c'est ouais, voilà, c'est le Woody Allen que j'aime bien,
Et quand ils rentrent dans le stade, ils se font un peu fouiller, voir si un truc sur eux. Donc, tu vois un gros garde du corps qui fait une fouille sur un autre. Et quand il arrive à Woody Allen, au moment où il pose ses mains sur lui, Woody Allen fait comme si ça le chatouillait. Et quand tu vois l'espèce de scène semi-noir et blanc, hyper sérieuse, le gendarme, et d'un coup, Woody Allen qui arrive, qui fait... C'est du burlesque débile. Mais je pense que c'est ça. Les gens pensent que ceux qui aiment bon, l'humour trash vont aimer que l'humour trash. Mais au contraire, moi, ceux que je connais qui aiment le plus l'humour trash, c'est ceux qui aiment l'humour qui ose, expérimental et un peu différent. Et ils vont aimer des trucs aussi débiles que se jeter des tranches de jambon dans la gueule. Et ça, quoi.
Ah ouais, mais
Mais
moi
Walter...
j'adore Johnny Knoxville et Jackass, j'ai
Alors que
rien à redire là-dessus.
c'est pop et c'est débile, on est
C'est
d'accord.
pop et c'est débile et c'est même pas super drôle, mais moi ça me fait beaucoup rire. Et à côté de ça,
Tu sais
je sais
comment ça a
pas,
commencé, Jackass?
mon film comédie sans doute préféré, c'est Fargo, quoi, ce qui est quand même un tout autre genre.
Oui. Avec Fargo, c'est celui avec Buscemi?
Ouais, avec Buscemi dans la neige et Frances McDormand, avec où c'est un film qui paraît super lent, où il y a, je crois, une douzaine de morts, ouais, super violentes les unes après
Oh,
les
oui.
autres, quoi.
Ouais, c'est Fargo, super film, effectivement. Et tu parlais de donc Jackass, tu sais comment ça a commencé, la première l'idée de Jackass,
Mais
où
il
elle est
était
née?
journaliste.
Exactement, pour l'équivalent d'un truc genre Testachat.
Ouais, et elle se fait tirer des balles en caoutchouc dans le cul
Exactement.
et des trucs dans le
En fait,
genre,
il devait
quoi.
tester des vestes par balles.
Oui, voilà.
Et
ouais.
Donc, il dit à des potes, venez voir ça. Donc, ses potes l'ont vu en train de se faire tirer à la carabine à plomb. Et ils ont trouvé ça drôle de le voir qui est mal. Et ils ont créé Jackass. Donc, c'est vraiment. Et c'est, le titre est bien trouvé. C'est vraiment, c'est des Jackass.
Ouais,
c'est des débiles. Je parlais du montage. Donc, Walter, qui est en France en ce moment, qui est un gars de chez Kings of Comedy. Je suis allé avec lui au festival Juste pour Rire cet été. Et on a vu un gars, un Anglais qui s'appelle Sam Simons. Si vous aimez l'humour absurde, je crois que c'est difficile de faire plus que lui. Tout son show, il y a une heure de show, c'est lui dans le bus et il y a une voix off tout le long pendant une heure et il fait juste réagir à la voix off. Mais à un moment donné, il se met à imiter un chat, à un moment donné, il se met à courir sur place, à un moment donné, il se met à se jeter des tranches de jambon dans la gueule pendant une minute. On n'a aucune idée pourquoi. Ouais,
ça peut aller.
Mais tu dis, c'est une prise de risque. Le gars n'a pas l'air d'être un con et il sait qu'il fait quelque chose de complètement à côté de la plaque en espérant divertir. Et moi, ça me fait fort marrer, j'avoue. Ça me fait rire. Donc, tes idoles dans la comédie, ou des idoles des gens que t'aimes bien?
Oui, moi, je suis pas tellement d'idole dans le stand-up et tout, parce que c'est pas, je crois...
C'est pas un art qui te convient, qui te plaît?
Je crois que le seul spectacle que j'ai vu en entier, c'est le tien, quoi. Ouais. Encore, parce qu'on travaille pour la maison de production, donc...
Ah oui, donc
je me sentais un peu obligé de rester.
Ouais, Putain, t'aurais pu dire « je me sentais obligé de venir » au lieu de dire « je me sentais obligé de rester ».
De venir et de rester.
Oh, t'es... Quand je disais que tu peux pas t'en empêcher. Non. Non, mais je comprends. Et il y a aussi un truc, c'est que en Europe, le stand-up est moins bien fait parce qu'il est né du théâtre, donc il fait tout de suite plus fake qu'aux États-Unis, où il est né des bars, où là, il fait plus sincère.
J'ai un peu du mal, parce que je suis quand même entouré d'une bande de joyeux de rire, j'ai un peu du mal à me sentir obligé de rire devant un gars sur scène qui doit respecter un timing, un texte, des choses comme ça, dont tout est bien chronométré pour faire de l'effet. Quand même avoir un humour qui fait rire beaucoup de gens. Et les blagues sont parfois pas très bonnes, quoi. Alors que enfin, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, hein, je prétends pas que c'est des blagues qui pourraient cartonner en spectacle, mais quand moi, ce qui me fait rire, c'est de me retrouver avec des amis, mais ce qu'on sort, mais... Je suis plié, alors que devant un spectacle, je suis jamais spécialement plié.
Ah ouais, parce qu'en
j'adore
famille...
Louis, mais c'est la partie scénarisée qui me plaît le plus dans Louis. Quand tu vois ses spectacles, les petits bouts, les petits sketchs qu'il fait.
Le stand-up, ouais.
Le stand-up, je trouve ça c'est sympa, mais ça m'ennuie un peu, quoi.
Mais ça, c'est un truc. Donc Louis C.K., la série Louis qui est sur FX, à pas confondre avec la série Lucky Louis qui était sur HBO, qui a beaucoup moins bien marché. Qui lui est super fan de Woody Allen. Et d'ailleurs, il vient de tourner. Il va être dans le prochain Woody Allen.
La troisième saison, c'est vraiment du Woody Allen.
Et il prend le risque que, comme Woody Allen a fait aussi à l'époque, de ne pas être drôle pour être intéressant. Et ça, c'est un humoriste qui prend ce risque-là. Parce qu'il y a des scènes pendant 3-4 minutes, c'est pas du tout drôle.
Je sais pas si t'as vu les derniers épisodes, mais ils sont franchement glauques, quoi.
Oui, c'est ça. Oui, mais j'ai tout vu. Et il y a même des humoristes qui disent « J'aime beaucoup la série, je peux pas en regarder 3 épisodes de suite parce que ça me déprime.
Mmh. » Ouais, ouais,
mais... Alors que c'est techniquement une comédie. Et ça, c'est une prise de risque beaucoup plus grande que « On va faire des blagues sur les curés pédophiles. »
Ben oui, mais c'est intéressant aussi. Parce que ça amène, moi de ce que j'ai vu de Louis au début, c'était rigolo, et puis voilà, j'avais l'impression que ça se cherchait un peu. Puis cette dernière saison, c'est vraiment, il y a un côté humaniste super touchant.
Ah oui, c'est ça.
Tu sais pas dans quoi tu t'embarques, parce que tu sais pas si ça va te faire rire, si ça va être un peu débile, comme avec le gamin qui a une diarrhée dans son bain, je trouvais ça complètement débile. Après, t'as cette nana dont il est amoureux, enfin, spoiler alert, qui crève de façon totalement atroce.
Horrible devant
lui,
sa gueule,
c'est,
ouais.
What the fuck, quoi, tu vois.
Il se fait aussi violer dans la série.
Ah, ça, je me souviens pas, tiens.
Dans la bagnole. Je crois que c'est Mélissa Léo, c'est mémoire est bonne. Donc, un mec qui se fait violer par une femme dans une bagnole. et c'est, en fait, c'est ça, c'est la somme de petites scénettes qui, lui, le fait rire. Et il met ça bout à bout. Il m'a dit comme si on se connaissait, mais c'est pas vraiment le cas. Il a dit dans une interview qu'il dit j'en ai rien à foutre, je fais ce que je veux. Il dit, entre autres, dans la première saison, et si vous voulez regarder, vous allez pouvoir remarquer, dans un des flashbacks, on voit sa mère. Il y a plus qu'un flashback.
C'est jamais les mêmes acteurs.
Et c'est pas la même. Ouais, et même qu'une fois, dans un des flashbacks, il y a quelqu'un qui joue sa mère. Plus loin dans la série, ça joue la fille joue sa copine. Donc c'est la même actrice. Donc tu la vois à un moment donné en sa mère. Et
la femme de
la
ses
copine.
Enfants est black et ses enfants sont blonds.
Oui, blonde aux yeux bleus.
Blonde aux yeux bleus.
Mais c'est pas la même copine. Dans la troisième saison, elle est black. Et je me demande si dans la deuxième saison, elle était pas blanche.
Ouais, c'est possible. Il y a un truc comme ça.
Donc peut-être éventuellement, donc, écrire quelque chose. Si je te le dis, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens dans les gens que je connais, des gens que je trouve super drôles. Qui ne font pas d'humour. Et tu dis, l'humour, c'est quand même le seul fucking domaine où parmi les gens que je connais les plus doués, tu sais, les meilleurs footballeurs, ils font du foot. Les meilleurs dans leur domaine font ce qu'ils font. Sauf en humour, où tu croises plein de gens qui sont super drôles. En fait, l'humour a le syndrome Miss Belgique. C'est-à-dire que tu regardes Miss Belgique en télé, tu te dis, tu sais, on peut pas dire qu'elles soient moches, on va pas, belle ou pas belle, c'est ton choix, mais on peut pas dire qu'elles sont spécifiquement moches.
C'est des canons spécifiques, hein.
Oui, mais, oui, ouais. Mais tu sais, un petit mardi où il n'y a pas de foot, pourquoi? Non, c'est vraiment une vieille blague en plus. Un petit mardi. La première expression, c'est un petit mardi où il n'y a pas de hockey. Donc, il faut dire à quel point c'est une vieille blague. Mais je veux dire, tu peux trouver qu'elles sont pas, genre, absence de beauté, mais il n'y a pas présence de mochitude, pour la plupart, en tout cas.
Et absence de cerveau, surtout.
Moi, j'ai une fois présenté un concours comme ça, pour faire une mini parenthèse.
Ouais, ouais.
Et j'y étais, entre autres, parce que je n'avais jamais essayé. Je le faisais en co-présentation avec une Flamande et c'était super bien payé. J'étais content de le faire. Ouais. Mais je suis sorti de là avec un espèce de sentiment hyper mitigé parce que les filles, tu vois, qu'elles prennent. C'est hyper. Elles sont toutes jeunes et c'est hyper important pour elles et des gens viennent les supporter. Et tu vois qu'elles sont roses de stress et de plaisir quand ça s'est bien fonctionné. Tu vois toute la fête. Et j'ai vraiment senti un truc. Je me suis vraiment passé, tu sais, des fois tu fais un truc et tu ressors et tu te sens pas bien. Et je me sentais vraiment pas bien de me dire, d'un côté, je peux me foutre de leur gueule, mais de l'autre, est-ce qu'elles sont autant les victimes qu'on s'entend? J'avais du mal après à rire d'elles en me disant, elles font un truc super à cœur, qui est assez, on peut trouver ça assez ridicule. Elles disent des conneries, mais on s'en rendant pas compte parce qu'elles sont dans un système, mais qu'elles ont choisi, ça, tu vois.
C'est un de mes leitmotifs actuels, c'est que voilà, on parlait tout à l'heure du fait de vouloir expliquer parfois des choses. Moi, ce que j'estime avoir expliqué maintenant, c'est que voilà, pendant des années, j'ai critiqué. On a l'impression que je critiquais les groupes, les gens, les organisateurs, tout ce qui bougeait. Non, je critique principalement un système. Après que les gens aiment des humoristes, des films, des livres, des disques,
bah, je m'en fous.
Ouais. Le système qui fait que ça soit tel disque ou tel film ou telle blonde, dans le cas de Miss Belgique, par rapport à des filles qui pourraient être sublimes, mais qui ont lu trop de livres pour être dans Miss Belgique ou qu'est-ce que je sais.
Ouais.
Ça, c'est le truc. Ça, c'est l'ennemi. Ça, c'est le truc qui me fait chier. C'est que ces systèmes existent. Et ces systèmes aliènent les gens, ne leur rend pas service en leur donnant ce genre de nourriture pseudo-culturelle comme The Voice ou quoi. The Voice, moi, c'est un truc qui me hérisse le poil, mais à un point, tu peux pas imaginer.
Et le fait que ce soit l'RTB, ça te fait chier?
Non, ça, je m'en fous complètement. Je suis pas, ça pourrait être n'importe qui. Ce qui m'emmerde, c'est qu'il y a les gens qui tombent dedans parce que c'est le genre de barbaque dans laquelle ils tomberaient. Bon, c'est pas très critiquable. Là où je suis plus critique, c'est les gens qui regardent ça par ironie. Et donc, ça fait des scores d'audience monstrueux parce que t'as la moitié qui se foutent de la gueule de ceux qui sont dedans et t'as l'autre moitié qui applaudit comme ils applaudiraient à un ours en train de jouer du violon.
Non, c'est en train de jouer du violon, j'applaudirais très, 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 très fort. Moi, je trouve que The Voice, encore une fois, tu vas te moquer parce que tu vas dire je travaille pour la RTV, je suis corporate.
Ah non, mais j'ai pas de souci avec la RTV.
Mais je trouve que.
RTL, hein, je crois qu'eux en ont plus avec moi, même s'ils me connaissent, mais c'est même pas sûr.
Je trouve, moi, que The Voice, justement, a évité d'être dans le piège de nous montrer des nazes. Et c'est ça que j'aimais. Des nazes.
Ouais, des nuls. De quoi?
Dans The Voice, il n'y a pas de chanteurs qui étaient spécifiquement. Ils nous ont pas mis des mauvais pour nous montrer des mauvais, pour qu'on se foute de leur gueule.
Je regarde même pas ça. Je veux dire, tu peux pas ouvrir Facebook ou Twitter un soir de The Voice parce que t'as plein de commentaires qui tombent.
Moi, je le fais à crever.
Dès que je rentre chez moi.
Tu me bloqueras les soirs de The Voice. Non, moi, c'est ce que j'ai trouvé chouette parce que moi, j'arrive pas. C'est drôle que tu dis ça. Moi, les inoubliables nouvelles stars, ça me fait pas rire, mais pas. Ça, en fait, même ça me fait chier du fait qu'on prenne des gens qu'on sait qu'ils sont nuls, sauf ceux qui veulent absolument. En fait, t'as des désagréables ou des gens qui le font pour se montrer en télé, ça je m'en fous. Mais des gens qui sont sincères et qui sont juste un peu ridicules. Moi, aux États-Unis, une émission qui s'appelle Honey Boo, Here Comes Honey Boo Boo. C'est tous les concours de Minimis de 6-7 ans. Ah, et il y en a une, elle a 6-7 ans, puis elle a fait déjà genre 60 kilos, un truc comme ça. Ouais, ouais. Et elle a une espèce de personnalité hyper flamboyante, ce que tu voudras. Et ils ont une émission parce que c'est une famille de redneck à la délivrance. Toutes les fois qu'ils parlent, t'as le solo de banjo qui joue dans ta tête. La mère, elle a 33 ans, elle est déjà grand-mère et elle a 4 filles de 4 pères différents. Tu vois un peu le principe? Et tranquille. L'émission fonctionne. Et il y a un humoriste sur Twitter, j'avais vu, qui a dit chouette, on rigole maintenant avec cette émission-là. Ça veut dire que, tu sais, America, you're one step away from laughing at your handicapped people. Donc, ça, t'es à une étape de prendre des handicapés mentaux, de les mettre à la télé, de les pointer du doigt et de rigoler. Et moi, c'est ça que j'aime pas. Ceux qui sont cons, qui se prennent au sérieux, ça me dérange pas de rire d'eux. mais de rire du faible qui peut rien, ça me fait pas. Moi, quand je vois Laurent Ruquier faire des vannes de Loana, qui a fait deux tentatives de suicide, ou des blagues de Franck Ribéry parce qu'il y a une sale gueule, parce qu'il y a un accident, je vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans.
Ruquier, c'est un gros dossier, quoi.
mais tu vois, c'est du faux humour pour tous. C'est du faux humour. Ah oui, c'est du gentillet pour toute la famille. Alors que, est-ce qu'il y a des choses de plus horribles que de rire des faibles?
Je crois qu'il a le syndrome du stand-up raté. Comme il est producteur de sa proposition, il se sent obligé de faire les spectacles qu'il n'a pas réussi à faire quand personne n'en voulait, quoi. C'est pathétique parce que c'est vraiment pas drôle. Ça se veut influencé par les Américains, mais ça n'atteint pas la pertinence que ça pourrait avoir là-bas, quoi.
Prends l'exemple de mes idoles, c'est Craig Ferguson qui fait du Late Show, donc qui est produit par Letterman. Il est après Letterman, c'est un Écossais. Et quand Britney Spears s'était rasé le crâne et il avait commencé son stand-up en disant « Bon, tout le monde, je sais pas si vous avez vu ce week-end, Britney Spears s'est rasé le crâne. » Tout le monde rigole. Il fait « Mais tu sais quoi, moi, je vais pas faire de blague là-dessus. » Et je vais vous raconter pourquoi. Moi, ce week-end, ça faisait 10 ans que c'était mes 10 ans de sobriété. Et j'ai préféré mon week-end au sien. Et il commence sur un monologue sur le fait que clairement, elle a des problèmes et que plus on la montre, et là, ça devient de moins en moins drôle parce qu'elle a vraiment des problèmes.
Ouais.
Et il dit, moi-même, je me suis rendu compte que, et je blâme personne, que je commence de plus en plus à taper sur les faibles parce que c'est plus facile. Et je suis à deux doigts de juste regarder un gros pointé puis dire gros. Alors que le but de faire ça, c'est pour moi, c'est de rire de ceux qui peuvent se défendre, pas de ceux qui peuvent pas se défendre. Et je trouvais ça cool qu'il le fasse et qu'il le fasse pas en disant les autres, c'est de la merde, mais en disant moi, c'est mon système de valeurs et c'est ça que j'ai envie de respecter.
Moi, déjà, je suis pas le plus maigre de l'histoire non plus, mais je pourrais rire des gros et des choses comme ça. Mais c'est pas. Moi, ce qui me dérange, c'est quand il y a aussi un côté moralisateur. On parlait de la drogue tout à l'heure, c'est des junkies et des trucs comme ça. Où ils ont des problèmes d'alcool, de drogue, enfin de Britney Spears ou qui que ce soit d'autre dans ce milieu là, mais attends, tu connais pas leur vie, quoi. La vie qu'on te donne, c'est dans des magazines, c'est scénarisé, c'est du storytelling, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils vivent vraiment. Ces gens là se retrouvent à 15-16 ans avec des carrières de baron de la finance à gérer des dollars, des obligations monstrueuses. Attends-toi qu'ils ont une vie un peu dissolue, quoi.
Donc c'est ça le côté moralisateur qui te...
Oui, moi je suis j'ai un vieux fond libertaire et tous les côtés moralisateurs me cassent les couilles au marteau piqueur, quoi.
Donc on va revenir juste à l'humour. Donc il y a ceux que t'aimes, tu disais ceux que t'aimes bien, donc le stand-up, c'est pas tout à fait ta cam.
Non, mais j'ai des problèmes avec le timing, avec le fait que c'est un truc comme ça de sortir des vagues parce qu'il faut sortir des vagues.
Le fait que tu doives rire, tu sentes qu'on te demande de rire à un endroit fait en sorte que ça t'empêche de rire.
On parlait de Louis tout à l'heure, il y a cette fameuse scène avec David Lynch où c'est 1, 2, 3, make me love, quoi. Ça, moi, j'ai vu ça, là j'ai compris pourquoi j'aimais pas le stand-up, parce que le mec à qui on fait le 1, 2, 3, fais-moi rire, il a, à ce moment-là, il est obligé de faire rire.
Myriam a dit ça, Myriam, donc.
Oui, j'ai entendu ça, j'étais tout à fait proche de son.
Elle dit, c'est le côté finalement fake d'un truc qui est supposé être naturel, qui est je t'amène d'une manière et je m'arrête 3 secondes et là tu dois rire maintenant, qui fait que je peux pas rire.
Quand j'étais présent là sur le festival Kings of Comedy, moi c'était un peu ma découverte du stand-up parce que j'avais des trucs à la télé mais jamais en entier, quoi. Ce que je trouvais, c'était que l'ambiance était terrible, par contre, parce que par rapport à tous les concerts rock que j'ai vus où l'ambiance a tendance à décliner, je veux dire, c'est plus comme avant. C'est pas pour faire mon vieux con, mais il y a vraiment une grosse différence par rapport à avant, où le concert était plus une fête. Maintenant, c'est plus comme aller au théâtre, ou une meilleure acoustique, des gens assez pro, des sets qui commencent à l'heure, qui terminent à l'heure, tu fumes plus dans les salles, les gens ne se droguent plus dans les salles, ils boivent moyennement, on va dire, ou plutôt s'ils saoulent ça après. Donc c'est une toute autre ambiance à avant. Est-ce que quand j'ai vu ces spectacles de stand-up, je croyais que pour chauffer une salle et ce que ça dégageait, les gens qui rient, qui hurlent et tout, ça c'était très chouette, quoi. Par contre, ce qui se passait sur scène, ça me laissait un peu indifférent. Il y a beaucoup de spectacles où je suis parti avant la fin, en fait.
Oui, parce que ça te parlait pas. Mais c'est drôle, Gilles Morin, donc le producteur de Kings of Comedy, dit que pour lui, l'humour a un côté de... c'est un peu nouveau rock'n'roll dans le justement ce côté-là.
Ça me a priori, à première vue, il y a des...
Et moi, c'est ce que j'aimerais faire. Je sais pas du tout si c'est une mauvaise idée, mais dans l'absolu, je trouve qu'il y a un illogisme de faire des... dépendamment de ton style de stand-up, évidemment, ton style de spectacle, mais de faire du stand-up où t'es supposé être en interactivité avec la salle, mais de les amener dans un endroit où on ferme la lumière, on leur dit « Taisez-vous, éteignez vos GSM, vous n'avez pas le droit de boire et maintenant je vais vous faire rire », il y a un côté qui est assez illogique, alors qu'en théorie, ça devrait plutôt être le contraire. Levez-vous, allez boire un verre, faites du bruit, amusez-vous. Et moi, j'ai un format. Ouais. Et j'aimerais ça un jour essayer de faire quelques dates de stand-up dans des salles de concert. Avec une logique de concert où les gens boivent pendant le truc, peuvent appeler, peuvent faire du bruit, peuvent faire ce qu'ils veulent. Et c'est plus dur pour l'humoriste parce qu'il doit s'assurer d'être toujours un peu en contrôle et de ne pas perdre la foule. Mais je trouve que s'il y a un art qui s'y prête bien, quand il est bien fait, ce serait celui du stand-up. Et justement, tu irais, parce que je suis sûr que tu as vu des groupes mauvais dans lesquels tu as passé des bonnes soirées parce que tu as une bonne ambiance, même si le concert était mauvais.
Bien sûr, certainement.
Je pense que tu pourrais avoir la même chose avec du stand-up en disant c'était pas le meilleur, mais putain, je me suis amusé, c'était chouette. Et tu rentres chez toi avec un ressenti.
Alors, je connais pas du tout ce milieu-là, je sais pas si ce que je dis est pertinent, mais il y a le phénomène des hackers, là, je sais pas comment on appelle ça en français. Les
hackers, ouais, c'est ceux qui crient des insultes.
Qui crient des insultes, qui sont généralement assez vite pas maîtrisés, mais.
Ben, parce que tous les humoristes américains ont fait des bars et donc ont dû s'habituer à contrôler des vieux bourrés par la parole. Ouais. Tu dois faire en sorte que le reste de la foule t'applaudisse quand t'insultes la personne pour lui faire honte.
L'artiste de stand-up qui arrivera à totalement me convaincre, c'est le gars qui laissera parler les hackers, quoi.
Qui va faire un show avec le hackler.
Ouais, tu fais ton show. Alors tu prends des faux hackers comme les magiciens, quoi.
Au lieu d'avoir deux fausses bimbos, t'as deux faux hacklers en avant.
Mais oui, tu vois, les magiciens, enfin, il paraît, hein, de ce que j'ai lu, ceux qui prétendent faire de la télépathie et tout ça, t'as des gens dans la salle qui prennent des notes sur ce qu'ils entendent raconter, des trucs comme ça. Donc tu mets des faux hackers et puis tu balances tes trucs, quoi.
Ça peut être pas mal. On va essayer de boucler la boucle parce que là, bon, ça commence à faire un bout de temps qu'on cause. Pour le Miss Belgique, ce que je voulais dire tout à l'heure, et là c'est une longue boucle, j'ai que l'humour avait un peu le syndrome, je trouvais, à Miss Belgique, c'est-à-dire quand tu regardes Miss Belgique, tu dis ah oui, elles sont pas moches, mais je connais des plus belles, et quand tu regardes l'humour, souvent c'est la même chose, tu dis je vois son talent,
absolument,
mais putain je connais des plus drôles.
Absolument.
Et moi, mon but, ce serait justement de pouvoir trouver tous ces gens-là qui sont peut-être juste sur Twitter, sont cachés chez eux, font autre chose. Il y a des mecs de la pub, des journalistes, qui me font rire. Et j'aimerais ça pouvoir les canaliser et les amener à faire, que ce soit du podcast, que ce soit de l'écriture de série, que ce soit des tweets, n'importe quoi, mais de les amener à... Il faut, pour produire un meilleur humour, prendre les meilleurs dans le domaine. Et tu dis, il y a un sacré problème si ceux qui sont bons se disent pas qu'ils vont faire ça, là. Ils disent oui, je trouve qu'eux sont pas drôles, je sais que j'ai plein de potes qui sont drôles, mais tant pis, on va continuer de faire...
Oui, ça, ce qu'on fait, ça, hein. C'est parce que tu débarques en Belgique avec ton énergie nord-américaine. Nous, on est un peu plus cool avec ça, tu vois. Un peu plus modeste. Un peu plus envers nous-mêmes.
Mais il y a beaucoup de fausses. Ben, pas de fausses modesties, mais de modestie. Les gens pensent que la Belgique, c'est un petit pays, alors que c'est pas vrai. C'est pas un petit pays. Moi, je le dis tout le temps. Écoute, désolé si je radote, mais c'est un des pays les plus riches au monde.
Je pense que. Je veux dire, moi, les podcasts précédents, j'ai écouté ce que racontaient Myriam Leroy et Laurence Bibeau. Même qui sont à des niveaux tout à fait différents du mien en termes de reconnaissance et de possibilité qu'on leur demande des trucs et des machins comme ça, mais dans le discours, je trouve qu'on se retrouvait tous, quoi.
Ouais.
Et on est tous belges.
Tu...
Et j'ai interviewé pas mal de groupes, y compris des trucs très connus, genre Front 242 ou Néon Jugement, qui disaient exactement la même chose, quoi. Il y a une modestie maladive qui, vraiment, c'est pas que ça te bloque, mais t'y crois pas vraiment, quoi.
Ouais. Alors qu'il y a des exemples de succès incroyables.
Jacques Brel.
Ouais, non, mais plus récemment, je veux dire, peu importe. François Pirette, lui, sa force, c'est qu'il a réussi à faire un succès sans sortir de la Belgique. Et ça doit être un des rares humoristes millionnaires qui n'est jamais sorti de la Belgique. Je ne sais pas s'il est millionnaire, mais j'imagine que des cassettes, il en a vendu une ou deux. Il produit, il fait bien ses trucs. Et il a volé zéro... Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi, je respecte le gars qui a volé zéro centime. Hein. Il fait tout par lui-même et ça, c'est un truc. Même Stromae, c'est... Ben, je me souviens encore, il était stagiaire chez Énergie, mais il était stagiaire dans l'émission où je travaillais. Moi, je lui ai déjà demandé, dis, tu pourrais, s'il te plaît, coller les 3 messages qu'on a sur le répondeur pour en faire un fichier. Un an après, il me dit, ah, je peux pas venir au concert parce que je suis sur MTV Italie parce qu'ils font le top 10 de l'année. Shit, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Et c'est un super paye et il y a un gros succès, mais je trouve qu'il est pas du tout... dans n'importe quel autre pays, il serait traité mais comme une superstar et il serait régulièrement en première page de tout ce que tu voudras. C'est quand la dernière, il n'y a pas eu une heure spéciale sur lui dans une émission de télé, il n'y a pas eu, tu vois, on fait, ah oui, il marche bien. Un peu qu'il marche bien, là. Et je sais pas, et ça a beaucoup d'avantages. D'un autre côté, en Belgique, c'est Philippe Geluck qui disait, ben, je l'ai déjà vu, il habite dans le BOE puis il allait faire ses courses au Deleuze, dans le coin, ça, je me souviens, c'était dans le coin, en tout cas, dans le BW, et il était avec son panier de course normal, et j'avais reparlé après en disant, c'est fou, parce que tu te baladais comme ça, et les gens, genre, te dérangeait pas. Et lui, il me disait, en Belgique, les gens te traitent comme tu les traites. Si tu débarques avec des lunettes fumées et puis deux gardes du corps, les gens vont aller vers toi. Ah, et si tu fais tes courses comme n'importe qui, les gens vont dire bonjour, tu dis bonjour et tu continues.
Bah oui, oui.
Donc, il y a du très bon à vivre ici avec cette mentalité-là aussi.
Oui, moi, c'est l'exemple. Enfin, c'est Arnaud qui se trimballe en ville... comme n'importe qui, quoi.
Qui s'envoie, ce serait... Tu vas croiser des Noël... Ah, que ce soit Noël Godet à l'UGC de la Toison d'Or, comme si de rien n'était.
Tout le temps.
Et c'est ça, et tu te dis... Il y a un côté surréaliste qui est vraiment... Mais qui est chouette, en soi. Ça te plaît, toi, ou ça te casse un peu les couilles, l'espèce de... je vais dire... non, modestie maladive, comme tu disais.
Tandis qu'on est à parler de ça, moi, j'ai l'exemple totalement contraire qui me vient en tête, où j'étais un peu halluciné. C'était Vincent Cassel. Je devais interviewer Vincent Cassel, mais à une époque où il marchait déjà très bien. Hein, je crois que c'était pour Blueberry. Je suis pas certain du film, mais il s'est ramené dans un espèce d'humvee avec 4 blacks de 3 mètres de haut autour de lui, habillé tout en cuir Mocini ou je sais pas quoi, en train de se la péter comme un roi du pétrole. Je trouvais ça n'importe quoi. Ok, c'est Vincent Cassel, il a fait des chouettes films, mais c'est quand même que Vincent Cassel, quoi. C'est pas Obama.
Oh, oui. Et ça te les rend antipathiques, toi, en commençant
Non, il était assez sympa, en fait.
Ok.
Assez cool, mais... Tout le décorum était un peu... pour moi, c'était un peu too much, quoi. Après, face à lui, bon, c'était un gars... Il était déjà star avec son timing à respecter et tout ça. Il n'avait pas parlé des heures, mais il était plutôt sympa, quoi.
T'aimes ça faire des interviews?
Ça m'est un peu passé. J'en ai pas fait depuis un petit temps, là, mais ça dépendait qui. En fait, parfois, c'était vraiment à la limite de l'alimentaire et parfois, c'était des vraiment chouettes rencontres, quoi.
Et comme c'est de l'écrit, tu pouvais te permettre de prendre le temps?
Non, ça dépend, parce que c'est souvent, comme il y a des maisons de disques qui s'en occupent et que plusieurs journalistes passent à la queue leu-leu, c'est souvent assez chronométré.
C'est un peu frustrant. Moi, c'est pour ça que je suis super content de faire le podcast aussi, où là, on peut causer, on a le temps de s'asseoir et de dire une chier de choses, et tu dois pas sortir une vanne après 5 secondes, et tu dois pas sortir le... Tu dis pas, merde, il faut que je le creuse, il faut qu'il me donne la citation.
Les meilleures interviews que j'ai faites, c'était pas du tout pour de la promo par rapport à un disque ou un truc particulier, c'était des gens, j'avais une vague idée... J'avais une idée d'écrire un livre sur la musique électronique en Belgique qui s'est pas fait pour différentes raisons. Et là, j'ai fait quelques interviews et tout, mais qui duraient des après-midi entières. Et là, c'était vraiment cool, quoi. Ça, c'était du vrai travail, quoi.
Bien. T'aurais accepté de venir si t'avais pas entendu les autres interviews?
Ouais, je pense, ouais. Juste que pour te dépanner.
Parfait. Et je vais te poser deux dernières questions. On a fait le tour de l'humour, ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, ce que toi t'as fait, ta vie. Et je pense qu'on a fait un très beau tour. Comment tu penses, qui tu crois va s'échanger le podcast? Ceux qui t'aiment ou ceux qui t'aiment pas? T'es suivi activement plus par ceux qui t'aiment ou par ceux qui t'aiment pas?
Je sais pas, parce qu'avec maintenant le clout et tout ça, moi je j'ai arrêté, je fais pas du tout gaffe, je m'en fous. Statistiques de blog, je suis pas sûr que ça fonctionne très bien. Les statistiques du Focus Vif, on me les communique pas vraiment, donc moi je suis pas
t'es un peu en dehors du circuit,
savoir,
ouais.
Si ça marche ou si ça marche pas. Et mon seul moyen de voir, c'est un peu Facebook, mais comme les paramètres changent tous les 10 jours, là, je comprends rien à ce qui se passe. Vous retrouvez avec des commentaires de gens qui sont ni mes amis, ni des abonnés, ni rien, et qui commentent quand même. Donc, je sais pas du tout à quel niveau je suis suivi, quoi. Et le podcast, je crois que... Allez, mes amis vont l'écouter, peut-être ma maman. Sans doute 2-3 personnes de la RTBF pour savoir si je suis vraiment un con ou pas. Et, puis voilà, quoi.
Et tu crois que ceux qui auront fini d'écouter vont un peu mieux comprendre ce que tu fais?
Je sais pas,
parce
mais
que
j'ai...
tu veux pas te justifier, mais en même temps, quand on parle pendant un bout de temps, on passe à travers aussi.
Ah, il y a des petites choses qui passent, quoi.
Parce que t'aimes bien causer, mais j'ai l'impression que tu fais quand même. T'es un boxeur qui est habitué et tu vas pas baisser ta garde non plus toutes les 2 secondes. Hein.
Bah non, mais c'est parce que comme on est détendu, on y a des trucs auxquels j'ai jamais répondu. Par exemple, le truc des gonzesses, t'as toujours pas ta réponse. Je sais pas si t'en rends compte.
Mais je me suis rendu compte que t'avais pas très envie d'en parler.
Non, donc, pas spécialement.
Mais c'est ça, mais le but, c'est ça. Encore une fois, moi j'aime bien poser questions. Et l'avantage d'avoir un ton, moi je dis, c'est plus de la discussion que de l'interview.
Ouais, non,
mais il faut pas que la personne. Moi j'ai pas envie d'agresser. Je trouve pas qu'un bon intervieweur, c'est quelqu'un qui agresse. Et surtout, de toute façon, je suis pas capable. Il y en a qui le font très bien, moi je suis pas du tout capable. Donc moi je cause, et puis si je vois que la personne n'a pas envie de répondre. Tu sais, si t'es frustré parce que t'as pas la réponse à une question, c'est peut-être parce que t'as pas une autre idée de question derrière aussi.
Non, mais là, c'est pas tellement.
Et t'es pas politicien, on s'en fout.
Ouais, c'est ça. C'est pas tellement on pas envie de répondre, c'est que c'est le truc.
Tu fourres tellement que si t'en parles, ça ne peut que te nuire, quoi.
Pas plutôt le contraire, mais bon.
Je vois. Ben écoute, tu sais quoi, pour la première fois, on va s'arrêter sur une non-réponse. Et puis, je te laisser. Il y a des trucs dont tu veux. Donc, il y a le livre Sortie de route qu'on peut
le
trouver.
Le livre Sortie de route.
On Google, tout simplement.
Ouais, Casa Cosmani, c'est le nom de mon blog. Tu googles ça, tu tombes directement.
Casa Cosmani.
Ouais, en un mot.
Magnifique. Ouais. Et autre chose, le blog.
Bah c'est ça le blog, et à partir de là tu tombes un peu sur tout avec les liens. Il suffit, si ça, y a les liens vers le Twitter, vers le Facebook, vers les trucs qui sont sortis dernièrement, vers les articles publiés ailleurs.
Et si je comprends tout, on peut se revoir pour le live tweet de The Voice très bientôt.
Bah, je crois que je vais aller voir Looper au cinéma ce soir là, donc.
Parfait, merci beaucoup Serge.
Oui, y a pas de quoi dire.
À bientôt, bon bye.
Ouais.